Parce que c'est une grâce, c'est un privilège que tu nous accordes en ce début de semaine, une journée très surchargée par des activités professionnelles. Mais tu nous fais grâce d'être là. Nous te disons merci. Nous te disons aussi merci, Seigneur Dieu, pour ceux-là qui ont eu le privilège d'avoir ces moments de se connecter en ligne, d'être avec nous, partout là où ils se trouvent, sur les quatre coins du monde. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ces bons moments que tu nous as préparés, Seigneur Dieu, pour nous parler sur ces thèmes autour de l'indépendance financière dans la marche avec toi. Seigneur Dieu, nos cœurs sont assoiffés, prêts à recevoir les messages que tu nous as préparés aujourd'hui. Je prie, Seigneur Dieu, que tu disposes tout et chacun de nous à recevoir cette semence que tu vas planter à nous et qu'une fois plantée, qu'elle puisse germer, bien se développer et produire des fruits. Seigneur Dieu, je prie aussi pour moi, ton humble serviteur que tu as choisi, pour parler à travers moi, Seigneur Dieu, je prie que tu puisses m'utiliser puissamment et que, Seigneur Dieu, tu puisses communiquer ce que tu as prévu et non pas ce que moi j'ai en moi. Seigneur Dieu, nous prions que le Saint-Esprit puisse dominer pendant ces instants et que tout ce qui ne confesse pas ton nom s'éloigne de nous au nom puissant de Jésus. Merci Jésus parce que tout celui qui est ici et celui qui est à route pour venir ici va recevoir sa part de bénédiction que tu nous as préparée à ces premiers jours de ce séminaire qui a été introduit hier. Merci Jésus parce que tu nous écoutes et tu vas nous bénir abondamment. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Mettons-nous, merci, vont nous asseoir. Comme Pasteur a dit dans le message qu'il nous a envoyé, c'est un séminaire qui nous est préparé pour nous tous, mais aussi nous sommes invités, nous sommes autorisés à inviter. On dit souvent que l'invité n'invite pas, mais pour ce séminaire, nous sommes autorisés à inviter nos bien-aimés pour qu'ils viennent aussi jouir de toutes les bénédictions que Dieu nous a préparées pendant la semaine. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu de faire partie de cette église. Pourquoi? Parce que non seulement elle veille sur notre vie spirituelle, mais au-delà de la vie spirituelle, elle veille aussi sur notre bien-être économique, matériel et financier. Donc, c'est un privilège que Dieu nous accorde d'être à ce deuxième jour ou premier jour de ces enseignements qui ont été introduits hier. Et ceux qui étaient là hier, pour rappel, nous avons été défiés. Défiés par quoi? Défiés par ce passage biblique qui nous a été lu par l'orateur. Ils ont parlé l'officiant, notre frère Yeka, ce passage de Proverbes 6, où nous sommes invités, nous les humains, à aller apprendre de qui? De qui? De qui? Fourmi, un être très minuscule que nous piétinons souvent. Et moi, j'ai honte. Vous savez, quand on est une grande personne et qu'on fait quelque chose de ridicule devant un enfant, n'est-ce pas, on se sent ridicule? Quand vous faites une bêtise, vous êtes un adulte et que c'est un enfant qui vous le rappelle, n'est-ce pas, vous vous sentez humilié. Et souvent même, nous tapons les petits enfants en disant qu'ils sont impolis parce qu'ils ont remarqué qu'une grande personne a un peu déraillé. Mais là, nous sommes défiés par un être plus minuscule qui n'est même pas humain comme nous. Et nous allons avoir le temps de parler de ça. Alors nous allons commencer par une lecture biblique dans le livre de Habacuc, chapitre 2, verset 6. Habacuc, chapitre 2, verset 6, la parole de Dieu dit ceci. Habacuc, chapitre 2, verset 6, la parole de Dieu nous dit ceci. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Je répète, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente les fardeaux de quoi? Les fardeaux de quoi? De ses dettes. Ici, on nous parle du fardeau de dette. Donc, nous sommes en train de voir ici, dans ce passage biblique, le contexte de quelqu'un qui porte le poids de la dépendance financière. Et il nous est parlé du fardeau de dettes. Celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Malheur à lui. Alors aujourd'hui, nous allons développer le sujet qui est intitulé l'indépendance financière. C'est quoi et quels sont les facteurs favorisant l'indépendance financière et quelles sont ses implications dans notre vie comme chrétien et dans la vie de l'Église. C'est ça le sujet que nous allons développer aujourd'hui. Et pour commencer, nous allons nous poser la question, c'est quoi l'indépendance financière? C'est notre premier point. Comme nous avons introduit hier, l'indépendance financière, c'est le fait d'avoir à long terme des ressources financières qui nous appartiennent, qui sont propres à nous, qui nous permettent de pouvoir à nos besoins afin de mener une vie normale. C'est ce que nous avons vu hier comme définition de l'indépendance financière. Et nous allons essayer de décortiquer cette définition-là. D'abord, c'est quoi ressources financières propres à long terme? Par ressources financières propres à long terme, nous attendons l'accumulation des finances, mais aussi de biens matériels qui peuvent avoir une équivalence en finances et qui nous permettent d'avoir une couverture jusqu'à plusieurs années après. Et nous avons dit hier que même quand vous êtes jeune, dans votre décision, dans votre agissement en matière de finances, pensez à vos jours à venir parce que aujourd'hui, c'est aussi un jour pour préparer le lendemain. Nous allons aussi voir c'est quoi pouvoir aux besoins. Dans notre vie au quotidien, nous sommes appelés à pouvoir à plusieurs types de besoins. Et les experts en matière les ont catégorisés, certains en 5, certains à 3. J'ai pris la catégorisation simplifiée à 3 types de besoins. Donc nous avons les besoins primaires, appelés aussi besoins physiologiques. Ce sont des besoins que nous devons obligatoirement couvrir. Donc la personne qui a moins devrait au moins couvrir ses besoins physiologiques. Et ces besoins sont composés de quoi? C'est l'alimentation, le logement, la santé, les vêtements. Et quand nous parlons d'alimentation, vous savez de quoi il s'agit? C'est avoir 3 repas par jour. Et à l'école primaire, on nous a appris les repas équilibrés. Mais vous savez, si on parle de repas équilibrés et le nombre de repas par jour, même si on posait la question ici, combien ont eu 2 repas et il reste un seul, ça sera terrible. Pas parce qu'on ne veut pas, mais nous nous sommes familiarisés à ces rythmes-là, parce que le moyen ne les permet pas. Lorsque nous parlons de logement, ça doit être un logement décent, un logement qui nous protège efficacement contre les intempéries. Comme vous voyez maintenant, il est en train de pleuvoir, mais nous pouvons poursuivre ces enseignements sans perturbation. Un logement où vous avez accès à l'eau et à l'électricité. Et si nous parlons de l'accès à l'eau et à l'électricité, vous savez le taux de couverture, le taux de raccordement de nos maisons en eau, encore qu'il y a même ceux qui ont des robinets, et ça fait longtemps que l'eau est passée par ces robinets-là. Nous avons aussi les besoins secondaires, sont les besoins de deuxième catégorie. La catégorisation des besoins secondaires, elle est relative parce que pour certains, un besoin X pourra être primaire, pour certains, c'est un besoin secondaire. Par exemple, si vous vivez en ville, peut-être que les besoins des transports, ça va être primaire. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas primaire pour celui qui vit dans un milieu rural où tout est dans son écosystème. Donc, ça dépend du contexte dans lequel vous vivez. Et nous avons maintenant les besoins tertiaires, qui sont les besoins dont que nous pouvons même ignorer, parce que ce sont des besoins qui viennent embellir. Mais nous allons voir que dans notre style de vie, il y en a qui mettent priorité aux besoins tertiaires. Vous n'avez pas mangé deux repas, mais votre téléphone ne manque jamais le méga. Et si nous revenons sur la santé, parce que la santé fait partie des besoins primaires, il y a des normes en matière de santé. Par exemple, pour nous les adultes, même les enfants, nous devons faire un contrôle médical. Mais lorsque cette question elle est posée, et si elle est posée ici maintenant, combien ont fait un check-up médical, sont allés voir un médecin sans aucune plainte? Donc, vous êtes dit que c'est le jour de mon rendez-vous médical. Vous n'avez aucune maladie qui vous l'exige, mais vous dites, chaque 6 mois, je dois faire un contrôle médical. Et lorsque nous touchons ces détails-là, vous vous rendez compte que le contexte ne nous le permet pas, parce que souvent, nous ne sommes pas financièrement équilibrés. On parlerait aussi d'un déséquilibre financier. Donc, les moyens, les ressources que nous avons ne nous permettent pas de mener une vie normale. Et donc, nous ne sommes pas indépendants financièrement parce que nous ne pouvons pas couvrir tous les besoins qui sont censés être couverts. Si on parle maintenant des soins bucco-dentaires, il y a certains, ils sont allés chez les dentistes lorsque on devrait extraire la dent. Il y a même plusieurs qui sont arrivés à l'âge de 50 ans, 40 ans, sans jamais voir un dentiste. Il y a même, on nous a arraché des dents qu'on n'allait pas arracher parce que nous sommes allés chez les dentistes quand c'était déjà trop tard. Mais nous réalisons que beaucoup de gens vivent une vie anormale où les besoins tertiaires, des fois, prennent priorité. J'étais dans un milieu donné et j'ai vu, c'était un milieu reculé, mais dans ce milieu-là, j'ai vu sur des maisons à paille des antennes Canal Plus. Et je me suis posé la question, comment ces gens font? On m'a dit non, ils ont un petit panneau, une batterie, et ils envoient sur M-Pesa, ils achètent l'abonnement pour suivre les matchs de Barça et de Real. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont prêts à tout sacrifier pour ne pas rater le match de Barça et de Real. Et pourtant, c'est dans les tertiaires. Ce n'est pas dans les besoins fondamentaux. Troisième élément de ces premiers points sur la définition de l'indépendance, disons de l'indépendance financière, c'est mener une vie normale. C'est quoi une vie normale? C'est une vie dans laquelle nous sommes en mesure de pourvoir aux 3 types de besoins et nouer les 2 bouts du mois, c'est-à-dire quoi? Avoir une stabilité du 1er au 31 ou au 30 du mois, sans stress, mais aussi avec un niveau d'autonomie couvrant 6 mois si notre revenu devrait s'arrêter par là et sans faire allusion aux réserves que nous faisons pour la retraite. Je vais essayer d'expliquer. Ça veut dire quoi? Pour être indépendant financièrement, si vous êtes salarié, vous devez vous rassurer que si un événement donné survenait et que votre salaire devrait couper, vous avez au moins des ressources qui vous permettent de tenir pendant 6 mois. Pourquoi pendant 6 mois? Parce que c'est le temps qui peut vous permettre de trouver une autre alternative si votre source de revenus arrivait à s'arrêter brusquement. Vous avez vu pendant le COVID comment ça a été catastrophique. Et même si vous êtes homme d'affaires, vous devez avoir ça à tête, avoir un matelas financier qui peut vous permettre de tenir pendant un moment de perturbation, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que cela peut arriver. Et cela implique quoi? Cela implique une grande discipline en matière de gestion financière. C'est-à-dire quoi? Chaque fois que j'ai un revenu, je dois être en mesure de le partager entre différentes rubriques, notamment les consommations de la période, mais aussi des comptes pour les périodes à venir. Et comme nous l'avons dit hier, souvent, nous vivons au taux du jour. Donc, notre cycle d'autonomie ou d'indépendance financière est très court. Et nous avons vu qu'il y en a ceux qui sont limités à une journée. Et quand il a couvert une journée, il peut sommeiller paisiblement et demain encore matin, ce sont de nouveaux stress qui commencent. Et nous sommes souvent stressés et traumatisés parce que nous n'arrivons pas à réunir les préalables pour mener une vie normale par rapport aux questions financières. Maintenant, dans le deuxième point, le premier point, nous étions en train de définir c'est quoi l'indépendance financière, si vous êtes en train de noter. Dans le deuxième point, nous allons faire un rappel sur les facteurs qui nous empêchent d'arriver à une indépendance financière. Et parmi ces points, le premier point, nous avons parlé des croyances personnelles. Vos croyances personnelles ont un grand effet sur votre indépendance financière. Donc, vous croyez que moi, ce que je vis, c'est ça le normal. Et vous n'arrivez pas à fournir des efforts pour passer à une autre étape. Et dans notre contexte, nous avons plusieurs qui sont restés dans la passivité ou bien qui ne fournissent pas assez d'efforts pensant que c'est ça la situation normale. C'est trop dangereux si c'est le cas pour vous. Deuxièmement, c'est le faible niveau de la foi. Donc votre foi ne vous pousse pas à vous engager dans des activités risquées. Et lorsque nous avons vu hier la parabole du maître qui a confié des talents à ses serviteurs, nous avons vu que le troisième serviteur, ce qui lui a manqué, c'était quoi? C'était la foi. Il a eu peur qu'il peut investir et ça ne va pas marcher. Et nous avons souvent faible foi de nous engager dans des activités risquées. J'ai vu beaucoup de gens qui disent « Je suis informé, mais j'ai peur de m'engager. » Parce que j'ai peur que je vais faire une perte et ça va me ruiner. Dans le troisième point, nous avons vu les aspects culturels. Et dans les aspects culturels, nous voyons des pratiques que nous avons cooptées comme mode de vie. Et vous savez, ici chez nous, nous avons pris la vie comme un rythme, comme une musique. Donc, après les études, on cherche le travail. Après avoir trouvé le travail, on fait quoi? On se marie. Et après, on doit construire une maison et vivre ce rythme normal. Et la vie est devenue comme une musique. Et tout le monde fait la course vers ce rythme-là. Donc, après l'éducation, le travail, le mariage et construire une maison. Mais moi, si je vous partage mon expérience, moi, j'ai inversé. Après le travail, j'ai dit, mais après mes priorités, je ne construis pas une maison. J'ai investi. Je pense que j'ai habité la maison que j'ai construite, c'est presque 15 ans. 15 ans après que j'ai eu ma licence. Mais la plupart de mes collègues ont fait la course, avoir d'abord une maison. Mais moi, je me dis, j'ai investi d'abord. Et vous savez, on parle de ce qu'on appelle d'immobilisation, vous immobilisez l'argent. Je connais plusieurs qui se sont pressés. Donc, première priorité, c'est construire la maison et puis vous y êtes, vous n'avez pas à manger. Ou bien après, vous la vendez. Ou bien, le niveau de revenus ne vous permettra jamais de la finir. Et la plupart de nos parents disent que leur maison reste toujours chantier jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on est resté dans cette routine-là et on n'a pas exploré pleinement notre potentiel. Alors, nous avons le contexte familial. Le contexte familial, c'est souvent en Afrique avec le contexte des familles nombreuses. Et aujourd'hui, vous savez, la vie coûte trop cher. Avec un certain nombre d'enfants, c'est difficile à tenir. Parce que tout coûte cher. De la maternité jusqu'à amener l'enfant jusqu'à finir le système éducatif, ça coûte trop cher. Et ça nous pousse à prendre des décisions personnelles par rapport à ça. Ne disons pas que nous devons vous dicter un modèle de vie, mais chacun devait voir comment il va maintenir son équilibre dans son contexte familial. Le nombre de personnes qui vivent sous votre dépendance, ainsi de suite. J'étais en train de parler aux fiancés dans les enseignements, je disais, si ça dépend de vous, et si c'est possible, prenez un peu de temps d'abord, concentrez-vous sur vous deux, et prenez le temps de consolider votre économie avant de prendre des grandes charges. Parce qu'il y en a qui en ont pris au début et ils sont restés dans ces cycles-là de déstabilisation et de stress. Et c'est difficile des fois à réparer à un certain moment. Nous avons l'autre point, c'est la discipline personnelle. La discipline personnelle, c'est par exemple lorsque nous avons de l'argent Qu'est-ce qui vient en tête en premier lieu? Plusieurs d'entre nous, si vous lui donnez 100 dollars, directement, il y a des besoins qui commencent à se définir dans la tête. Rares d'entre nous peuvent avoir un billet de 100 dollars qu'on vous a donné et vous le gardez, vous prenez d'abord le temps de planifier qu'est-ce que je vais faire avec. Certains auront le premier réflexe de passer au supermarché. Si c'est un des hommes ici, il va vouloir passer peut-être par la boucherie, amener à maman une bonne surprise parce qu'il a eu un 100 dollars qu'il n'a pas planifié. Certains vont penser à une dépense, aller acheter un pantalon, une chemise, et pour les jeunes, aller acheter un smartphone. Et je plains beaucoup les jeunes parce que maintenant, nous perdons beaucoup d'argent dans les smartphones. Et vous allez voir une famille aujourd'hui, vous êtes 10 personnes, chacun a son téléphone. Mais vous en faites quoi? Peut-être que vos mouvements sont déjà connus. On sait que si vous n'êtes pas à la maison, vous êtes où? Soit à l'école, soit à l'église, soit à la répétition. Maintenant, chacun a un téléphone pour faire quoi? Et pour votre information, le smartphone est devenu une source de pillage pour nos familles. Mais vous êtes 10 personnes dans la famille, chacun avec son smartphone. Nous avons fait des simulations qu'avec un smartphone de 100 dollars, si vous les vendez, vous allez au marché de Virunga, vous achetez combien de poules traditionnelles? Vous pouvez avoir 20 petites poules. Vous allez les faire grandir et si vous avez la grâce d'avoir de l'espace, après ça va commencer à se reproduire. Et après une année, avec la multiplication, avec ce que nous allons étudier, vous allez avoir beaucoup, votre économie va se consolider. Alors ce sont des questions de discipline personnelle. Est-ce que vous pouvez arriver à vous discipliner, vous êtes encore jeune et vous dites voilà, moi je me débarrasse de mon smartphone pendant un temps pour lancer cet argent dans une activité génératrice de revenus et après un temps, ça va encore me payer un autre téléphone. Souvent, c'est la discipline qui va manquer, mais aussi la discipline dans notre manière de dépenser. Et c'est important que chacun de nous définisse une discipline personnelle qui est alignée sur ses objectifs. Surtout que nous avons vu hier qu'il faut vous définir une vision. Vous devez vous définir une vision de ce que vous voulez être demain. Nous avons aussi le manque de connaissances en éducation financière. Notre système éducatif n'a pas prévu cela, bien que nous sommes en train de faire beaucoup de plaidoyers pour que cela soit le cas. Déjà, dès le bas âge, il fallait que les petits-enfants s'exercent à l'éducation financière. Donc, quand vous donnez à un enfant 1000 francs, posez-lui la question, qu'est-ce que tu vas faire avec? Si c'est presque de tout finir, il faut vraiment encore insister que quand vous avez 1000 francs, il faut dépenser 500 et garder combien? 500 pour le jour à venir. Initions déjà les enfants à ce genre de pratiques. C'est très capital. L'éducation financière implique beaucoup d'enseignements qui vont nous aider à vivre sagement avec l'argent. Donc lorsque nous avons l'argent, ne pas nous précipiter dans les consommations sans tenir compte du lendemain. Le dernier facteur, c'est le contexte macroéconomique. Et c'est par exemple la RDC. Nous vivons une situation qui nous est imposée. Par exemple, les fluctuations, la monnaie, lorsqu'il y a inflation, lorsque le taux d'échange varie quotidiennement, ça peut nous influencer. Je donne un exemple. Quand le taux était à 930, ceux qui touchaient 200 000 francs, les agents de l'État, ils avaient plus de 200 dollars. Mais il y en a qui avaient 200 000 francs, c'est toujours 200 000 francs. Maintenant, 200 000 francs, c'est combien? C'est moins de 100 dollars. C'est ce qu'on appelle la macroéconomie. Donc, le système économique global peut aussi nous impacter. Par exemple, aujourd'hui, il y a hausse des prix des carburants. Donc, si vous payez du carburant pour votre moto, c'est sûr que le budget du carburant est en train de vous ronger, de ronger une rubrique autre. Et ça vous met dans un déséquilibre. Maintenant, à troisième point, nous allons voir les facteurs qui favorisent l'indépendance financière. Alors, avant le premier facteur, je vais donner sur la planification. C'est le facteur zéro que je n'ai pas mis là-bas, c'est la planification. Et vous devez planifier selon une vision que vous vous êtes fixée. Lorsque nous n'avons pas planifié, il est risqué. Il y a beaucoup de risques, c'est risquant que nous puissions vivre dans le désordre. Et planifier, c'est quoi? Lorsque je commence l'année, je me fixe des objectifs. Je dis, nous sommes en fin 2022, pour l'année 2023, je me fais l'objectif d'acheter une moto à la fin de l'année ou un taxi-voiture qui va améliorer mon niveau de revenus. Ça, c'est le point zéro. Même si vous n'avez rien planifié, mettez sur papier et commencez maintenant à prier pour ça. Et Dieu va bénir. Hier, nous avons dit, fixez-vous une vision. Faites-vous une vision que ma vision, d'ici une année, je vais être ABC. En fait, la vision, c'est une puissance. La vision, des fois, elle est définie comme une corde qui vous permet de traverser d'un côté vers l'autre côté d'une rivière. Et cette corde, ça vous permet de tenir. Alors, la vision ne dépend pas de ce que vous avez aujourd'hui, non. La vision ne dépend pas de votre histoire familiale. J'ai vu des gens qui n'ont pas rêvé d'acheter une voiture parce qu'ils disent, mon père n'a pas acheté une moto, comment je vais rêver d'acheter une voiture? Et notez que cette vision qui a une puissance, c'est celle-là qui va vous pousser vers l'action. Si vous avez la vision, ça va aussi enlever en vous la peur d'avoir les risques de vous lancer dans une activité risquée. Et donc, rassurez-vous d'abord avant toute chose que vous vous êtes fixé votre propre vision. C'est très capital. Maintenant, ça, c'était l'élément zéro. Maintenant, l'élément un, pour une indépendance financière, c'est un travail rémunéré. Et j'ai bien précisé, ce travail peut être formel ou informel. Il ne faut pas dire non, moi, je suis licencié, je n'ai pas de travail. Non. Ici, nous parlons de travail rémunéré. Un travail rémunéré, pour moi, ça peut être aller faire un potager à Monigui. Comme Dieu nous bénit avec la pluie, vous allez louer un champ, ça ne coûte pas trop cher, faites des amarantes, potager, et après 3 mois, c'est la récolte. Et il y a des simulations qu'avec un investissement de 50 dollars dans un potager d'amarantes, vous pouvez récolter jusqu'à 300 dollars si vous avez bien fait le suivi. Et c'est dans 3 semaines. Donc, il ne faut jamais vous plaindre que moi, je n'ai pas de revenus. Vous êtes dangereux si vous vivez sans revenus. Donc, votre revenu, c'est combien? C'est zéro. Je félicite les petits-enfants que je vois lorsque nous allons avoir enterré à Macao, les enfants qui entourent, ils viennent dire, « Papa, je vais garder le véhicule. » Et des fois, ces enfants arrivent à gagner jusqu'à 3 000 francs par jour et ils amènent à leur famille. Quel courage! Et dans une ville comme Goma, j'ai toujours dit que si vous n'avez aucune option, vous pouvez aller là où il y a beaucoup de pierres, ramasser des graviers. Ingénieur John, ou bien architecte John, un petit sac de gravier, c'est combien? Un petit sac de ciment. Pas une benne, un petit sac de ciment. Ça coûte combien? C'est 1 000 francs. Et si vous en ramassez 5 par jour, c'est combien? C'est question de vous réveiller tôt le matin à 5 heures. Il y a beaucoup d'endroits là où vous pouvez ramasser ces graviers-là. Et les graviers, je vous informe que ça ne manque pas du marché. Nous avons beaucoup d'ingénieurs ici. Si vous les informez, vous en avez. Demain, il faut vous trouver les marchés. Et si vous réunissez un camion Ben, c'est combien? Gravier. Plus de 60 dollars. Et comment c'est possible que vous puissiez avoir ça gratuitement? Et donc, par rapport au travail, le défi que nous avons à relever, c'est de ne pas rester sans rien faire. Et si vous êtes dans cette situation-là, s'il vous plaît, cherchez quelque chose. Hier, nous avons donné l'exemple de vider les toilettes. Et un de nous a dit qu'il a fait vider son WC à combien? À 150 dollars. Engagez des jeunes hommes, achetez des bidons, mettez des cordes et cherchez des moyens. Vous allez commencer à faire le marketing pour vider les fosses septiques qui sont remplies. Il y a toujours des clients pour ça. En fait, ce sont les activités négligées dans lesquelles on gagne beaucoup d'argent. Alors, deuxième point, pour arriver à... Les facteurs qui favorisent l'indépendance financière, c'est la culture budgétaire et la discipline financière. Alors, par culture budgétaire, c'est-à-dire quoi? Nous devons nous initier à budgétiser. Ne vivons pas en désordre. Et chaque fois que vous voulez engager une dépense, interrogez-vous, cette dépense que je vais engager, elle est dans quelle rubrique de mon budget? Parce qu'il nous arrive de dépenser alors que ce n'est pas budgétiser. Et c'est trop dangereux. Et même l'offrande devait être dans une rubrique de votre budget. Ceux qui auront besoin, nous allons imprimer des canevas de budget qui seront mis à votre disposition. C'est un canevas avec 20 rubriques qui vous permet de définir chaque rubrique. Et quand vous avez ce canevas-là, vous allez voir que votre attitude face à une dépense va changer. Ce n'est pas que vous allez devenir ce qu'on dit entre guillemets chiche, mais vous allez être rationnel. Oui, et vivre avec un budget ne signifie pas aussi quelqu'un qui se prive trop. Non. Nous avons vu hier que dans le budget, il faut la rationalité et vous devez vivre le bien-être selon vos moyens. Si votre bien-être, c'est de prendre le pondu et mettre les kinono, c'est déjà bon. Ou prendre les haricots et la pomme de terre, c'est déjà bon. Réjouissez-vous-en. Le bien-être, c'est relatif, ça dépend de comment vous le définissez. Mais c'est question que vous ayez le moyen pour pouvoir avoir besoin. Et vous savez, quand on parle de manger, il y a manger et manger. Je peux aller ici à Biréré dans un restaurant, je prends un plat de pommes de terre et haricots à combien? À 1000 francs. Il y en a pour 1000 francs. Namina na Shibango bien. Et quand on nous voit ici, on ne saura pas ce que tu as pris. Quelqu'un d'autre va aller chez Magali, ça va lui coûter 10 000 francs. Quelqu'un d'autre va aller à Linda Waihusi, ça va lui coûter dans les 15 dollars. Si vous allez à Serena, c'est dans les 30 dollars, 50 dollars. Mais celui qui a pris sa pomme de terre et haricot, il va être heureux au même niveau que celui qui a pris quoi? Les repas de 30 dollars ou de 50 dollars à Serena. Alors pourquoi nous disons ça? Dans la budgétisation, fixez-vous vos objectifs. Dans la budgétisation, on n'imite pas. Non, chacun mène sa vie selon vos objectifs. Mais dans le budget, l'élément clé, c'est de vous rassurer que vous tenez compte d'aujourd'hui et de demain. Vous ne consommez pas tout. Dans le budget que nous allons vous remettre, dedans, il y a quoi? Il y a la dîme, c'est la première rubrique. Vous devez budgétiser la dîme, donner la dîme à Dieu, le 1/10. La deuxième rubrique, ce sont les offrandes. Et on a calculé que les offrandes et les aumônes peuvent vous prendre jusqu'à 5% de votre budget. Il vous reste 85%. La troisième rubrique du budget, c'est le paiement des dettes. Et hier, nous avons vu que vous devez vous débarrasser du poids des dettes. Et nous allons voir des passages bibliques qui nous parlent de ça avant la fin de l'enseignement d'aujourd'hui. Et nous avons dit qu'en payant vos dettes, si ce sont des grosses dettes, il faut les rééchelonner, négocier un rééchelonnement de façon à ce qu'un remboursement ne dépasse pas 30% de votre revenu. C'est vrai, le début d'une culture de budgétisation, elle est un peu. Le début est difficile, mais quand ça marche, vous vous sentez équilibré et vous pouvez dormir. Il y a des gens qui ne dorment pas, qui ont développé des problèmes de gastrite, des poumons d'estomac. Parce qu'il y a des problèmes financiers. Demain, c'est une échéance, soit les loyers, soit ceci. Et moi, si je vous partage mon expérience, quand j'ai fini mes études, quand j'ai eu mon premier travail, j'ai pris un studio. J'ai commencé par un studio. Un studio qui m'écoutait je payais moins de 30 dollars. Alors que mon revenu était presque plus de 10 fois que ça. Ça m'a permis d'économiser et de faire des investissements. 5 ans après, je me suis marié, j'ai pris une maison d'une autre catégorie. Et peut-être aujourd'hui, je suis quelque part, peut-être demain, je vais quelque part. Donc, la budgétisation vous permet de définir aussi vos standards. Ça permet de définir dans quel type de maison vous devez habiter. Parce qu'il peut arriver que la maison dans laquelle vous habitez, soit ça vous met dans un déséquilibre, ou soit vous êtes en dessous de là où vous devez être. Ça peut être aussi dans un autre sens. Troisième facteur qui favorise l'indépendance financière, c'est la culture de l'épargne. Et par la culture de l'épargne, disons quoi? Chaque fois que vous avez un revenu, pensez à l'épargne. Et qui doit épargner? C'est tout le monde. Vous avez 10 dollars épargnés. Et dans les templates du budget que nous allons vous partager, il y a deux types d'épargne. Il y a trois types d'épargne. Il y a l'épargne obligatoire. L'épargne obligatoire, nous vous recommandons de mettre à part 10% de votre revenu. Ça, c'est de l'argent que vous devez obligatoirement mettre de côté. Et ça vous aidera à faire face à un moment imprévu. Deuxième type d'épargne, c'est l'épargne dédiée pour un investissement. J'épargne autant d'argent pour acheter un taxi-voiture. Ou bien j'épargne autant d'argent pour initier une porcherie ou bien une unité d'élevage de poules. Ou bien acheter une moto qui va faire les taxis. Troisième type d'épargne que nous oublions souvent, c'est l'épargne pour la retraite. Si vous n'avez pas ce compte-là, allez l'ouvrir, quel que soit votre âge. L'épargne pour la retraite, et si vous prenez les trois là, c'est 10, ça peut arriver même à 30%. Si vous réussissez à mettre à côté les 30%, je vous dis, vous serez équilibré. Si vous avez 30 ans aujourd'hui et vous commencez à mettre selon votre revenu, vous allez voir qu'à 60 ans, vous aurez des ressources que vous n'épuiserez pas. Même si vous vivez à 80, jusqu'à 80 ans, vous n'allez pas épuiser si vous commencez tôt. Maintenant, quel que soit votre âge, il vous est recommandé de commencer. Prenez la décision de commencer à épargner dès aujourd'hui. Vous savez, c'est dangereux de vivre sans épargne. Parce que lorsqu'une situation imprévue arrive, nous sommes perturbés. L'épargne dédiée, c'est aussi le jeune qui vous aspirez au mariage. Aujourd'hui, quand un jeune me dit qu'il veut se marier, je lui pose la question, bon, vous avez déjà préparé combien pour vous-même? C'est vrai, nous avons un système culturel qui fait que nos familles nous accompagnent. Mais en principe, nous devrions d'abord nous-mêmes faire un pas et les familles ensuite vont nous accompagner. Quatrième facteur, c'est la diversification des sources de revenus par des initiatives entrepreneuriales. S'il vous plaît, ne misons pas sur une seule source de revenus. C'est trop dangereux. Vous avez un travail, ça peut être dans une entreprise, mais cette entreprise peut connaître la faillite. Et demain, vous allez devenir. Vous pouvez connaître une situation qui fait que votre travail prend fin. Alors, la diversification des revenus se fait par plusieurs options. Et nous aurons le temps de développer ça dans les 2-3 jours qui suivent. Comment nous devons initier et développer une activité génératrice des revenus qui va réussir. Parce que c'est par l'initiation des AGR que nous pouvons arriver à diversifier notre revenu. C'est-à-dire quoi? Je suis employé quelque part, mais aussi pendant mes moments libres, j'entretiens un potager. J'ai découvert récemment une activité qui est très rentable. C'est vendre des chiens. Vous connaissez les chiens, les petits chiens. Vous achetez deux types de chiens, mâles, femelles, des races améliorées, je ne sais pas, berger allemand ou autre. Maintenant, on achète un bébé de berger allemand, combien? Combien? C'est entre 200 et 400 dollars, ça dépend. Un bébé. Et on l'achète pendant que c'est encore en grossesse. Donc, dès que vous avez un chien qui approche la maternité, vous pouvez déjà prendre de l'argent. Est-ce que vous savez ça? Maintenant, si vous êtes connecté à quelqu'un qui a un restaurant, et nous avons ceux qui ont des restaurants, et que vous allez avoir de la nourriture, pas trop cher, c'est un projet très rentable. Parce que si vous avez 4 géniteurs, et les chiens peuvent avoir combien de petits? Un chien peut avoir combien de petits? 5-6. Donc, si vous avez 6 petits bergers allemands, c'est combien? Minimum 250 à Goma fois 6, c'est 1500. Ça, c'est aussi une des activités que vous pouvez développer. Ou bien, si vous êtes vraiment, vous pouvez même demander à la paroisse de vous aider. Vous allez commencer à laver les véhicules des gens qui en ont besoin ici. Et vous aurez des clients. Oui, il y en a qui viennent ici parce qu'ici, il y a de l'eau. Vous convenez avec la paroisse et vous allez commencer à participer à la facture de la régie des eaux. Je ne sais pas si le pasteur va refuser. Si c'est bien planifié, il va accepter. Et la diaconie va vous accompagner. Cinquième facteur, nous lisons ça dans Proverbes, chapitre 22, de 26 à 27. Proverbes 22, 26 à 27 nous dit ceci. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Ça, c'est le proverbe qui nous le dit, c'est pas moi. C'est-à-dire quoi? Ici, il nous est demandé d'être sages en matière d'endettement. Pourquoi je parle de la sagesse en matière d'endettement? Parce qu'il y a des circonstances qui peuvent nous y contraindre. Mais si cela arrive, comment nous allons nous y prendre? Et à travers quelques points, nous allons voir comment être sage par rapport à l'endettement. Média, soyez avec nous. Premier point, c'est bien analyser la décision de s'engager pour un crédit. Si vous voulez prendre un crédit, que vous soyez une famille, prenez le temps d'analyser à profondeur. Est-ce que ça vaut la peine? J'ai toujours dit que le crédit, ça doit être l'option du moindre mal. Donc, après avoir épuisé toutes les autres alternatives, le crédit, c'est la dernière option. J'ai dit bien, il y aura des circonstances qui nous obligent. de prendre un crédit. Mais rassurons-nous que c'est l'option, c'est la solution du moindre mal. Et c'est lorsque nous disons que devant l'impossible, nul n'est tenu. Et passer à dire que nous sommes maintenant endettés, nous comme paroisse, parce que les travaux de la maison pastorale avancent à un rythme plus avancé que les entrées au niveau de la caisse de la paroisse. Donc il arrive des circonstances qui vous y contraignent. Deuxième soupçon par rapport à la dette, c'est que dans la mesure du possible, évitez de s'endetter pour la consommation, sauf pour un dépannage de très courte durée. C'est quoi un dépannage de très courte durée? C'est par exemple mon salaire a traîné, il y a eu un problème au niveau soit des transferts bancaires, ceci ou cela, et je dois payer mon loyer. Je peux demander à un frère, mon salaire a traîné, je dois renouveler mon loyer, c'est 150 $. Est-ce que vous pouvez me donner 150 $? Je vais vous rembourser dès que mon salaire tombe. Ce sont des circonstances normales et ça ne va pas faire un fardeau pour vous. Troisième sous-point par rapport à la dette, pour un investissement productif, média plus, pour un investissement productif, évitez d'offrir en garantie ou caution plus de 50% de votre patrimoine pour un crédit. Beaucoup de gens ont fait faillite à cause de ça. Il a pris le certificat de l'unique maison qu'il a construite, il est allé mettre en crédit, il est allé à Dubaï, il a pris des marchandises et on l'annonce que le conteneur l'a fait au nom. Est-ce que la banque va vous pardonner pour ça? Et s'il n'y a pas d'assurance, la banque ne va pas vous pardonner. Elle va vous donner un peu de temps, de relance. Après, on va vous dire, nous sommes désolés de vous annoncer que votre titre sera liquidé. Et on fait une vente à enchère de votre investissement. Donc, nous devons éviter. J'ai toujours dit que lorsque vous mettez votre patrimoine en hypothèque, rassurez-vous que ça ne ronge pas plus de 50% de ce que vous avez déjà accumulé comme bien. C'est très important d'y veiller parce que beaucoup ont fait faillite à cause de ça. Sixième facteur qui nous conduit vers l'indépendance financière, c'est dans Proverbe 21:5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Nous devons apprendre à investir sagement. Et quelles sont les stratégies pour investir sagement? Premièrement, c'est de prendre le temps qu'il faut pour analyser ce qu'on veut entreprendre. J'ai vu beaucoup de gens qui me disent, moi je déteste l'entrepreneuriat. Parce que j'ai commencé ceci, ça n'a pas marché. Avez-vous pris le temps d'analyser tous les facteurs, tous les risques? Deuxièmement, c'est bien vous documenter sur les expériences similaires. Vous voulez faire un poulailler? Allez consulter même trois qui ont fait le poulailler. C'est comment l'expérience? Est-ce que le marché est là? Au fait, comment lorsque les poulaillers sont à maturité? Est-ce que c'est automatique d'avoir les clients? Prenez le temps de vous documenter. Faites une étude du marché, n'y allez jamais précipitamment. Lancez-vous en petit, commencez votre activité en petit, commencez ça sous un petit format, surtout si vous ne maîtrisez pas encore ce secteur-là, et ça va se développer petit à petit. Si vous voulez faire un grand poulailler, ne commencez pas avec 1000 géniteurs, non, commencez avec 10, observez, prenez l'expérience, et ça va vous donner tout ce qu'il faut pour maintenant bien développer une grande unité d'élevage des poules. Ne pas injecter tous vos capitaux dans une même activité. Il y a beaucoup qui vivent aujourd'hui une vie déséquilibrée parce qu'ils ont tout mis dans une même activité. Et lorsque l'activité ne marche pas, ça devient un cauchemar pour la famille. C'est vraiment très dangereux. Et un adage africain dit qu'on ne met pas tous les œufs dans un même panier. Si vous avez une quantité donnée d'œufs, il faut mettre une partie, et ça vous permet de préserver une partie au cas où il y avait un incident. Se faire accompagner par des experts. Peu de gens se font accompagner. Septième point, nous le trouvons dans Deutéronome 8, 17 à 18. Nous lisons ceci. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ses richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à ses pères. Nous sommes invités à ne pas nous écarter de l'Éternel et ne pas être hautains. Qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? Lorsque certaines personnes sont bénies financièrement, ils abandonnent facilement la voie du Seigneur. Au lieu d'aller au culte, il va jouer au tennis. Il dit que c'est le style de vie. Au lieu d'aller à la cellule, il va faire le jogging à culotte. C'est vrai, on peut avoir le temps de faire le jogging. Et le temps d'aller où? À la cellule. On peut avoir le temps d'aller au culte et le temps d'aller jouer au tennis. Au lieu d'aller dans une étude biblique, il va aller dans un club d'initiation. Et aujourd'hui, c'est courant. Plus vous montez financièrement, il y a des gens qui s'approchent de vous. Bienvenue dans les clubs de ceci, clubs de cela. Et d'autres clubs où on allume des bougies. Pour adorer qui? Et nous avons beaucoup de chrétiens qui se sont éloignés de la voie du Seigneur pour aller dans ces clubs-là. Et vous savez, Dieu, il nous teste. Un moment, il vous bénit, il voit comment vous allez vous comporter. Et j'ai vu même des femmes aujourd'hui qui prient que Dieu ne bénisse, limite les bénédictions de leur mari par là. Les femmes disent, ah, tu n'as pas le monde. Parce que si tu montes encore, hatakamatika. Vous avez vu ça, non? Il y a des femmes maintenant qui ont inversé la prière. Au lieu de prier que Dieu continue à bénir les maris, la femme prie, Seigneur Dieu, arrête-toi par là, pour que j'aie le temps quand même de les voir aussi à la maison. Il y a certaines personnes qui n'ont pas su gérer la bénédiction. Nous allons voir les derniers jours comment gérer la bénédiction. Comment vous pouvez avoir $1 million et rester la même personne? Il y en a qui s'exclament. Ils disent, est-ce que c'est possible? Vraiment, que Dieu nous fasse grâce comme église d'y arriver. Parce que je comprends, il y a ceux qui ont un doute. Il y en a qui ne croient pas qu'on peut avoir assez de richesses et d'être la même personne. Mais à travers ces passages de Deutéronome 8, 17 à 18, allez bien les noter. Et quand Dieu va vous bénir, lisez ça chaque fois. Que ce n'est pas par votre force, mais c'est grâce à qui? C'est grâce à Dieu que vous y êtes arrivé. Et Dieu, il nous teste. Dieu, il te donne les bénédictions à un certain niveau. Il voit comment il se comporte. Est-ce qu'il maintient l'équilibre? Il ajoute encore. Il ajoute encore. Mais pourquoi il n'en continue pas? Parce qu'il trouve que la plupart d'entre nous, nous perdons l'équilibre. Mais si vous êtes en mesure de tenir, je vous dis, Dieu va continuer à faire quoi? Ajouter. J'avais fait un vœu il y a 3 ans. Je pense qu'il y a ceux qui se souviennent. J'étais encore devant cette chair. Mon vœu était que je vais commencer à payer la dîme correctement. Et je veux que Dieu m'amène jusqu'à 1 million. Que je calcule que j'ai gagné 1 million pendant une année. Et il verra si je ne vais pas donner la dîme de 100 000. Parce que c'est quoi avec la dîme? Avec la dîme, nous pensons que la dîme de $100, c'est normal. La dîme de 1 000, encore un peu normal. Quand ça devient une dîme de 10 000, on commence à partager. Vous commencez à diviser avec Dieu. Dis, ça devient beaucoup. Est-ce qu'il y a même quelqu'un qui donne ça? Et Dieu va s'arrêter là. Il n'en va plus vous ajouter. Et nous ratons ainsi les bénédictions. Donc si vous êtes à mesure de vous maîtriser à un niveau très élevé, et la foi que Dieu va vous dire, ah, moi j'ai cette foi-là. Qui ont la foi avec moi? Amen, merci, merci, que Dieu vous bénisse. Alors, pour clôturer, nous avons le dernier point. C'est maintenant l'implication de l'indépendance financière sur les chrétiens et l'Église. Il nous reste 3 minutes, je vous promets qu'on ne va pas déborder. Nous lisons la première implication dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10. Nous lisons ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Est-ce que vous comprenez ces passages? Ces passages, on les lit souvent, mais comme souvent les pasteurs les lisent, nous pensons, ah, attends, qu'on a l'ombre à Sadak. Mais ce passage incarne, c'est une clé qui nous ouvre à plusieurs bénédictions si nous arrivions à nous l'approprier et les pratiquer. Donc, soyons fidèles envers Dieu en matière d'offrande et de dîmes. Je vous dis, c'est un secret. Malheureusement, sur mille chrétiens, peut-être, il y a difficilement 100 qui pratiquent. Comme je vous ai dit là, quand Dieu te bénit un peu, la dîme, c'est facile. Mais quand il te bénit beaucoup, tu commences à avoir des prétextes D'ailleurs, il y a ceci, d'ailleurs, il y a cela, et vous ne payez pas la dîme. Deuxième implication de l'indépendance financière, nous les voyons dans le livre d'Exode, chapitre 22, Exode, chapitre 22, verset 25. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier, tu n'exigeras de lui point quoi? D'intérêt. Malheureusement, entre nous, il y en a qui prêtent à d'autres et qui les coincent. J'ai prié que Dieu nous donne cette grâce, que quand nous serons bénis, que nous soyons non seulement en mesure de prêter sans intérêt à ceux qui sont en difficulté, mais aussi de faire des dons. Mais comment ça? Soyons sensibles, rendons-nous fréquentables. Vous savez, le défi, c'est quoi? C'est lorsque Dieu nous bénit, on va mettre tous les fumées sur nos voitures, vous montez toutes les vitres, et les gens ont difficile à vous voir. Et quand ils veulent vous parler, vous faites seulement comme ça, avec vos vitres très fermées. Comment vous allez pratiquer ça? Pour que vous arriviez à pratiquer ce passage d'Exode 22-25, de nous soutenir nos bien-aimés en difficulté, d'abord, il faut se faire aborder. Se faire aborder, c'est quoi? C'est permettre que les gens peuvent avoir le courage de venir, même si chez vous, il y a la sécurité. Est-ce que vous avez donné des consignes à vos gens de sécurité que si quelqu'un vient ici et qu'il est de l'église, faites un effort que je sois au courant qu'il est passé. Parce qu'il y en a qui se sont fait distants, qui ont pris de l'écart au point où on ne peut pas le voir. Et ça fait un défi. C'est vrai, à un certain niveau, les normes sécuritaires peuvent limiter. Mais dans la mesure du possible, rendez-vous accessible. Ça vous permet d'avoir l'occasion et la grâce d'écouter que celui-là a besoin de ça. Des fois, ils ont besoin de l'argent que nous utilisons pour acheter des chocolats. Et pour lui, c'est un soulagement. Je me suis fait la culture, quand je vais dans les supermarchés, de me rendre accessible par ces petits-enfants qui sont là. Je me rends toujours disponible de voir au moins deux ou trois. Et je me pose la question, à la fin de votre journée, combien de gens vous ont dit que Dieu vous bénisse? Vous savez, quand ces gens vous disent que Dieu vous bénisse, vous pensez que c'est une parole vaine. Et posez-vous la question, du lundi au samedi, combien de personnes ont dit que Dieu vous bénisse? Combien de personnes sont en train de prier pour vous parce que vous avez été un soulagement pour eux? C'est ça le secret de la bénédiction. Ce sont ces implications souvent qui ne sont pas réelles chez nous et nous nous limitons par là. Et Dieu dit donc celui-ci, je ne peux pas dépasser ce niveau-là. Et ça nous met dans les cercles de l'instabilité. Et pour clôturer, l'Église aura assez de moyens pour sa mission holistique, c'est-à-dire quoi? Évangéliser. Donc l'Église aura des moyens aujourd'hui pour financer une campagne d'évangélisation. Vous savez, aujourd'hui, pour organiser un petit camp biblique, combien ça fait débat au consistoire? Pour organiser une sortie d'une chorale d'ici vers une autre ville, vous savez combien ça fait débat? Parce qu'on n'a pas de moyens. Mais si nous nous mettons à pratiquer tout ce que nous venons de voir, l'Église va avoir le moyen pour évangéliser, pour financer les œuvres sociales, aider les pauvres. Et je sais que, pasteur, vous recevez beaucoup de gens, non? Quand ils voient l'Église, ils viennent demander un soutien. Et faire du développement communautaire et du développement durable. Ceci est possible si vous et moi, chacun de nous, nous engageons sur cette voie. Que Dieu nous bénisse, que bénisse sa parole. Amen.